Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une question qui déchire littéralement les historiens, les théologiens et les linguistes depuis plus d'un siècle.
Ouais, un vrai champ de mine intellectuelle.
C'est clair. En fait, la grande question, c'est lorsqu'on étudie un texte ancien, un texte qui a vraiment façonné des civilisations entières, est-ce que c'est possible de séparer les faits historiques, froids et objectifs, du message spirituel qui s'y rattache?
Tout en gardant l'essence du texte, bien sûr. C'est tout le défi.
Voilà. Et pour cette analyse approfondie, on se base sur un document fascinant. Il s'agit des notes de cours du professeur Robert Van Wy, des notes qui décortiquent les théories monumentales d'un historien majeur du XXe siècle qui s'appelle Gerhard von Rad.
Tout à fait.
Donc, notre mission aujourd'hui, c'est vraiment d'explorer les mécanismes de la critique historique de l'Ancien Testament. On veut comprendre comment ces érudits font pour lire entre les lignes et distinguer l'histoire factuelle de ce qu'ils appellent l'histoire de la foi.
Et surtout, on va voir quelles sont les conséquences vertigineuses de cette méthode sur notre compréhension des textes fondateurs. Mais juste avant d'entrer dans la mécanique complexe de ces théories, je pense qu'une clarification fondamentale s'impose.
Oui, tout à fait, pour poser le cadre, je suis d'accord.
Voilà, parce que les sources qu'on examine aujourd'hui soulèvent des questions religieuses, historiques et théologiques qui sont extrêmement sensibles.
Très sensibles, oui.
Ça implique des confrontations directes entre la critique académique purement séculière et la pensée évangélique conservatrice. Donc, il faut bien préciser que l'objectif de notre discussion d'aujourd'hui, c'est en aucun cas de prendre parti.
Non, absolument pas.
On n'est pas là pour valider ou invalider la véracité de ses croyances, ni de ses textes sacrés. Notre approche se veut strictement analytique et impartielle. On est là pour rapporter, pour expliquer et explorer les idées et les tensions intellectuelles qui sont contenues dans les notes du professeur Van Wy.
Ok, décortiquons tout ça. Pour bien saisir l'ampleur du débat, je vous propose une petite analogie. Imaginons la découverte d'un vieux journal intime familial, caché au fond d'un grenier.
D'accord, je vois le genre.
On le lit, on est captivé, il y a des récits de survie, des grands voyages, les épreuves de nos ancêtres. En fait, cette histoire, elle donne un sens et une identité à toute la famille. Mais là, une analyse graphologique révèle que l'écriture change.
Ah, il y a plusieurs auteurs ?
Exactement. Il y a 5, peut-être 6 plumes différentes, les dates se chevauchent et certains événements grandioses semblent avoir été remaniés pour embellir la légende familiale.
Ce qui change tout.
Bah oui. La question brutale se pose. Si les faits ne se sont pas déroulés exactement comme le texte l'affirme, est-ce que ce journal perd toute sa valeur ou est-ce qu'il existe une vérité identitaire qui transcende la simple exactitude des dates et des lieux ?
C'est une excellente image, et c'est précisément le nœud du problème que Gerhard von Rad tente de résoudre. Mais, comme le montre notre source, Robert Van Wy, von Rad ne part pas de rien. Il hérite d'une longue tradition de dissection textuelle.
Il arrive après la bataille, d'une certaine manière.
Un peu, oui. La recherche académique sur l'Ancien Testament avait déjà subi des séismes majeurs bien avant lui. Le premier grand bouleversement vient d'un certain Julius Wellhausen à la fin du XIXe siècle avec ce qu'on appelle la théorie documentaire.
La fameuse théorie documentaire, oui.
En gros, Wellhausen a refusé de lire les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, comme l'œuvre d'un seul auteur. En analysant le texte, il a repéré des ruptures de style, des répétitions, et surtout, et ça c'est crucial, l'utilisation de différents noms pour désigner Dieu.
Ce qui l'amène à diviser le texte, c'est ça?
Exactement. Il a découpé le texte en 4 grandes sources distinctes, ce qui forme le célèbre acronyme JDP.
JDP.
Voilà. La source yaviste, avec un J pour l'allemand, qui utilise le nom Yahvé. La source éloïste, qui utilise Elohim. La source deutéronomiste, le D, et enfin la source sacerdotale, notée P pour Priester Codex. Celle-ci, elle se concentre surtout sur les lois, les généalogies et tout ce qui touche au culte.
Donc pour Wellhausen, c'est un peu un patchwork géant.
C'est ça, un patchwork de grands blocs littéraires qui auraient été cousus ensemble très tardivement. Mais ensuite, un autre érudit, Hermann Gunkel, a repoussé cette logique encore plus loin avec la critique des formes.
Et lui, il cherche quoi exactement ?
Gunkel, lui, ne s'intéressait pas vraiment aux grands documents écrits. Son truc, c'était la tradition orale primitive. Donc, au lieu de voir des gros blocs, il isolait de toutes petites unités.
Genre des petits poèmes, des trucs comme ça.
Ouais, un chant de victoire par-ci, une légende locale par-là. Il cherchait à identifier le Sitz in Leben.
Le Sitz in Leben, c'est de l'allemand, ça veut dire quoi, concrètement ?
Ça se traduit par la situation dans la vie. En fait, c'est le contexte sociologique précis, la vie quotidienne, qui avait donné naissance à chaque petit fragment, bien avant qu'il soit couché sur le papier.
Ok, je comprends mieux. Donc en résumé, Wallah Houssen utilise une tronçonneuse pour séparer de gros blocs documentaires et Gonkel utilise un scalpel pour isoler des petits atomes de tradition orale.
Belle métaphore, c'est tout à fait l'idée.
Et Von Rad, face à ce texte complètement fragmenté par ses prédécesseurs, eh ben, il choisit de faire l'inverse. Il recule pour regarder l'ensemble. En fait, il étend même son champ d'étude au-delà du Pentateuque pour inclure le livre de Josué.
Ce qui forme ce qu'il appelle l'Hexatéoque, donc les 6 premiers livres.
C'est ça. Et sa question de départ est brillante. Il se dit, si ce texte est un assemblage chaotique de centaines de petites traditions oraux et de 4 gros documents, comment se fait-il que l'ensemble raconte une histoire suivie et cohérente?
C'est vrai que c'est le paradoxe principal.
Donc, Von Rad reprend le terme Gattung, le genre littéraire, et il affirme que cette immense montagne de textes constitue, dans sa forme finale, un seul et unique genre littéraire, et ce genre serait structuré autour d'un noyau très précis, un credo.
Et ce fameux noyau, Von Rad l'identifie dans le livre du Deutéronome au chapitre 26. C'est un passage très spécifique. C'est le moment où un agriculteur israélite vient offrir les premiers fruits de sa récolte et il doit réciter une courte confession de foi.
Un résumé de l'histoire, en gros.
Exactement. Le texte dit en substance « Mon père était un Araméen errant. Il est descendu en Égypte. Les Égyptiens nous ont maltraités. Nous avons crié à l'Éternel. Et l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte et nous a amenés dans ce lieu. »
C'est hyper condensé.
En quelques lignes à peine, toute l'histoire fondatrice est là. Et pour Von Rad, ce minuscule credo liturgique, c'est la charpente de tout l'édifice. C'est le plan directeur.
Donc il y a eu un architecte.
Selon lui, oui. Il postule qu'un rédacteur final a pris ce squelette théologique et y a greffé toutes les autres traditions volantes. Les lois, les légendes isolées par Gunkel, pour créer l'Hexatéoque final.
En fait, c'est un peu le principe de l'univers cinématographique, comme ce qu'a fait Marvel, mais appliqué à l'Antiquité, non?
Bah, Marvel, ouais. Comment ça?
Bah oui, on a d'un côté des dizaines de scénaristes, de réalisateurs qui inventent des personnages disparates au fil des décennies. Ça, ce sont les traditions isolées de Gunkel et les sources de Wallah Houssen.
D'accord, je vois où vous voulez en venir.
Prises séparément, ces histoires n'ont pas forcément de lien direct. Mais un jour, un producteur principal arrive avec un script directeur, le fameux credo de Von Rad, et décide d'unifier tous ces récits hétéroclites.
Il fait le lien, en fait.
Voilà, il modifie les fins, crée des transitions, ajoute du contexte pour que le dieu du tonnerre et le soldat de la Seconde Guerre mondiale s'intègrent dans une seule grande saga épique et cohérente.
L'analogie est très parlante. Sauf que, dans le cadre biblique, ce rédacteur final ne cherche pas à faire du divertissement au box-office.
C'est sûr.
Il construit la vision théologique d'une nation entière. Et c'est là que le modèle de Von Rad soulève un problème colossal. Si le texte final est le résultat d'un tel montage éditorial, motivé par un credo liturgique, eh bien, que reste-t-il de la réalité historique factuelle?
C'est la grande question, on bascule dans la fiction.
Le problème est central et Von Rad l'aborde de front, en instaurant une dichotomie très stricte. Il utilise 2 concepts allemands pour séparer les choses.
Lesquels?
Le premier, c'est l'histoire, avec un H majuscule. L'histoire, c'est la science historique moderne. C'est l'archéologie, la vérification des faits tangibles. C'est ce qui s'est réellement passé.
L'histoire avec un grand H, au sens moderne, quoi.
Exactement. Le second concept, c'est la Heilsgeschichte, c'est-à-dire l'histoire du salut. Ça, c'est l'histoire telle qu'elle a été perçue, interprétée, modifiée et confessée par la foi d'Israël.
Donc, les faits d'un côté et la perception spirituelle de l'autre.
Et la concession vertigineuse que fait Von Rad, c'est d'admettre que l'Ancien Testament ne contient presque pas d'histoire.
Attendez, presque pas du tout. Hein.
Presque pas. À son époque, l'archéologie et l'historiographie critique démontraient qu'il était logiquement et matériellement impossible qu'une population de plusieurs millions d'Hébreux ait marché en formation militaire stricte à travers le désert du Sinaï.
Oui, logistiquement, c'est un cauchemar.
Ou même que la conquête de Canaan se soit faite d'un seul bloc fulgurant sous les ordres de Josué, comme le décrit le texte. L'histoire factuelle pointait plutôt vers des infiltrations nomades, graduelles, de petites tribus disparates. Et Von Rad, en tant qu'érudit, accepte ce manque flagrant d'histoire.
Mais du coup, au lieu de jeter le texte aux oubliettes parce qu'il n'est pas factuellement exact, il décide de le sauver.
C'est ça.
Il élève l'histoire de la foi, la fameuse Heilsgeschichte, au rang d'objet scientifique légitime. En substance, il dit que, même si les faits physiques ne correspondent pas, le message théologique, lui, possède une vérité kérigmatique suprême.
Le kérigme, exactement. Ce terme grec qui désigne la proclamation du message central de la foi. Pour Von Rad, c'est la seule chose qui compte vraiment.
Oui, enfin.
Ce qui est fascinant ici, c'est la contorsion intellectuelle que cela exige. Von Rad parle lui-même d'un véritable fardeau pour la recherche.
Bon, bah, tu m'étonnes.
Nous avons l'histoire factuelle qui prouve une chose, et l'histoire de la foi biblique qui en raconte une autre. Elles sont incompatibles. Mais Von Rad exige que l'on accepte les deux comme valides dans leur domaine respectif. La science cherche un minimum critique factuel, tandis que le rédacteur biblique, lui, offre un maximum théologique, kérigmatique.
Alors je suis désolé, je comprends la démarche intellectuelle, mais je dois avouer une certaine perplexité là.
Ah, je vous écoute.
Bah, si on accepte l'idée que des petites tribus nomades isolées ont pris leur légende locale, leurs petits conflits régionaux, et qu'un rédacteur a décidé de gonfler ces événements, de les lier artificiellement pour faire croire à la population que des miracles grandioses étaient arrivés à l'ensemble de la nation.
Oui.
Bah, on décrit littéralement un processus de propagande, non ? Même si c'est bien intentionné, ce sont des fake news antiques. Si l'événement miraculeux fondamental ne s'est pas produit tel qu'il est raconté, alors la foi qui en découle est basée sur une manipulation des faits.
C'est une critique très sévère, mais très juste.
Comment on peut attribuer une valeur spirituelle profonde à un kérigme s'il repose sciemment sur une altération de l'histoire ?
Eh bien, cette faille logique que vous pointez du doigt, c'est précisément l'angle d'attaque du professeur Robert Van Hooy.
Ah ! Et il était d'accord avec moi ?
Totalement. Dans ses notes, Van Hooy démonte l'architecture de Von Rad en affirmant que ce dernier a, en fait, inversé la polarité du texte biblique.
Inversé la polarité ?
C'est-à-dire, pour Von Rad, c'est la foi d'Israël exprimée par le rédacteur qui crée l'histoire biblique. Mais Van Hooy soutient que, selon la logique interne du texte lui-même, c'est l'exact opposé. C'est l'histoire factuelle qui génère la foi.
Les faits d'abord.
Toujours. La révélation passe par des actes historiques concrets, dans l'espace et dans le temps. Si l'acte n'a pas eu lieu, la foi n'a tout simplement pas de moteur.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que Von Hooy, il refuse de survoler les concepts. Il plonge directement dans la syntaxe et la chronologie des textes pour le prouver, n'est-ce pas ?
Exactement. Il va chercher les preuves dans le texte lui-même.
Il prend un exemple canonique, le chapitre 14 de l'Exode. Le fameux récit de la mer Rouge. Et quand on y regarde de près, le texte ne décrit pas du tout un peuple rempli d'une foi inébranlable qui inventerait un miracle.
C'est même tout le contraire.
Oui. Les Israélites sont coincés face à l'eau, ils sont poursuivis par l'armée égyptienne, et ils paniquent complètement, ils sont terrorisés. Le texte insiste vraiment sur leur désespoir total. Et c'est ensuite, seulement ensuite, que vient l'action historique.
L'ouverture de la mer.
Voilà. La mer s'ouvre, ils traversent. L'armée de Pharaon est détruite, et là Van Hooy attire l'attention sur la mécanique de causalité d'un verset très précis, le verset 31. Il est écrit « Quand les Israélites virent la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, le peuple craignit l'Éternel et mit sa confiance en lui. »
Le verbe « voir » précède la confiance.
Exactement. La vue, l'expérience, avant la foi.
La syntaxe est indéniable, oui. L'expérience sensorielle de l'événement historique est la condition préalable absolue à la confession de foi. Van Hooy cite d'ailleurs un autre théologien, Franz Hess, qui résume parfaitement l'impasse de la théorie de Von Rad.
Que dit-il ?
Hess prévient, je cite, « Notre foi a besoin de reposer sur ce qui s'est réellement passé, non sur ce qui est seulement confessé s'être passé. »
C'est logique.
« Si la mer Rouge ne s'est pas ouverte d'une manière ou d'une autre pour sauver ce peuple, alors la confession de foi du Deutéronome, que Von Rad utilise comme credo, eh bien ce n'est pas un kérigme puissant, c'est une imposture rétrospective. »
Donc, le débat dépasse largement un simple désaccord sur les dates ou les chiffres. Si on coupe le lien entre l'événement et le message, on détruit la rationalité même de la foi israélite.
C'est le danger que pointe Van Hooy, oui.
Il n'est pas resté sagement cantonné aux salles de cours allemandes du siècle dernier.
Ah non ? Pas du tout.
Elle a muté et elle a infiltré la manière dont beaucoup de théologiens modernes lisent le texte. Van Hooy identifie un mouvement moderne qu'il qualifie d'évangélisme de concession.
Oui, l'évangélisme de concession, ça représente en gros une tentative de compromis.
Un compromis entre qui et qui ?
Entre la foi et la science moderne. Les érudits de ce mouvement veulent conserver leur respect pour la Bible et son message spirituel centré sur le Christ. Ça, c'est la base. Mais de l'autre côté, Il concède aux historiens critiques que le texte contient des erreurs factuelles avérées.
Donc, il lâche du lest sur l'histoire.
Voilà, il rejette l'idée d'inhérence biblique. Pour rappel, l'inhérence est la doctrine selon laquelle la Bible, dans ses manuscrits originaux, est totalement exempte d'erreurs, y compris dans ses détails historiques, géographiques ou scientifiques.
Evanoy prend un exemple précis de ça.
Oui, il s'attarde beaucoup sur le théologien néerlandais H.M. Kuyter. Kuyter a écrit un livre dont le titre se traduit par « Comprenez-vous ce que vous lisez ?» Et la thèse de Kuyter, c'est que s'acharner à défendre l'exactitude historique de chaque petit détail, eh bien c'est une perte de temps.
Selon lui, il y a trop de contradictions pour que ce soit 100% vrai.
C'est ça. Pour lui, les nombreuses contradictions apparentes prouvent que les détails sont faux, mais, et c'est là qu'on retrouve l'héritage de Von Rad, que le message moral, lui, reste vrai.
Ce qui est vraiment frappant dans les notes de Evanoy, c'est qu'il ne se contente pas de juste dénoncer l'approche de Kuyter sur le plan philosophique. Il va sur son terrain.
Il relève le gant, oui.
Kuyter avance des prétendues contradictions factuelles, géographiques ou historiques. Evanoy, lui, descend dans l'arène de l'archéologie et de la linguistique. Il veut démontrer comment le vrai travail d'enquête résout ces anomalies, sans avoir besoin de capituler sur l'histoire.
Il fait un vrai travail de détective.
Prenons l'exemple de la géopolitique et de l'économie du monde antique. Kuyter pointe un conflit flagrant entre le premier livre des rois et le deuxième livre des chroniques. Ça concerne le roi Salomon et Hiram, le roi de Tyr.
Un classique des prétendues contradictions.
Dans 1 Roi chapitre 9, le texte indique que Salomon donne 20 villes de Galilée à Hiram. Mais dans 2 Chroniques chapitre 8, on lit l'inverse absolu. C'est Hiram qui donne ses villes à Salomon. Pour Kuyter, c'est une contradiction historique classique, donc une erreur du texte. Point final.
Voilà, Kuyter s'arrête à la contradiction de surface. Mais Evanoy, lui, il explique la mécanique diplomatique du Proche-Orient ancien, et notamment le système des traités et des garanties financières.
Les garanties financières ?
Mais Salomon avait contracté une dette immense envers Hiram pour l'achat de bois de cèdre et d'or, qui était destiné à la construction du Grand Temple. Et il est tout à fait documenté que dans ces transactions antiques, des territoires étaient souvent cédés comme garantie. Une sorte de garantie hypothécaire, si vous préférez.
Ah, donc c'était comme une hypothèque sur des villes entières.
Exactement. Salomon donne les 20 villes en garantie temporelle. Et plus tard, une fois la dette remboursée, eh bien Hiram restitue logiquement les villes à Salomon qui les reconstruit pour y installer des Israélites.
Donc ce n'est pas une contradiction du tout ?
Non, c'est simplement une séquence temporelle d'échanges socio-économiques. C'est enregistré par 2 auteurs différents qui se focalisent sur des moments distincts du même traité. L'un parle de la mise en garantie, l'autre de la restitution.
C'est fascinant. Et le travail de détective historique va encore plus loin. Il y a un autre argument massif de Kuyter qui concerne des problèmes de biologie et de rites funéraires. La mort du roi Ouzias.
Ah oui, l'enterrement d'Ouzias.
Dans 2 Rois 15, il est noté qu'Ouzias a été enterré, je cite, « avec ses pères dans la ville de David ». Mais 2 Chroniques 26 précise qu'en raison de sa lèpre, il a été enterré dans le champ des sépulcres des rois, car on disait « il est lépreux ».
Et là encore, Kuyter crie à l'erreur.
Bah oui, il brandit la preuve de l'erreur historique. Soit il est avec ses pères dans la tombe royale, soit il est isolé dans un champ à l'extérieur. On ne peut pas avoir les deux.
Sauf que, ici, l'explication exige de comprendre les codes de pureté rituelle de l'époque et l'archéologie de Jérusalem. Le livre du Lévitique imposait un isolement très strict pour les lépreux, même après leur mort.
Pour pas contaminer les autres rois.
Pour éviter de souiller rituellement les tombes royales, oui. Le texte des chroniques est donc simplement plus précis. Il indique qu'Ozias était enterré dans un champ adjacent, un champ qui appartenait au domaine funéraire royal, ce qui justifie parfaitement l'expression générale « avec ses pères » du livre des rois, tout en respectant l'isolement du lépreux.
C'est une question de niveau de détail, en fait.
Exactement. Mais Evanoy va encore plus loin. Il mentionne une découverte archéologique assez spectaculaire qui a été réalisée sur le mont des Oliviers. C'est une plaque de pierre avec une inscription araméenne qui déclare « Ici ont été apportés les ossements d'Ozias, roi de Juda. Ne pas ouvrir. »
Waouh ! Ils ont retrouvé sa plaque !
Oui, mais attention, cette plaque date d'une époque bien postérieure au règne d'Ozias. L'archéologie nous montre que lors de l'expansion des murs de Jérusalem sous le roi Hérode, ou Agrippa, de vieilles tombes ont dû être déplacées pour faire de la place.
Donc les ossements d'Ozias ont été bougés.
C'est ce qu'on appelle un enterrement secondaire, une pratique très courante. Donc, une simple observation de surface de Kuiperth crie à la contradiction, alors que la complexité archéologique révèle au contraire une précision historique fascinante.
Et la démonstration de Vanhoe s'applique même aux légendes militaires les plus célèbres, comme le fameux combat entre David et Goliath.
Ah, le combat des chefs.
Kuiperth, comme beaucoup de critiques d'ailleurs, relève que 1 Samuel attribue la mort du géant Goliath au jeune David. Tout le monde connaît cette histoire. Mais 2 Samuel 21 mentionne très brusquement qu'un certain Elchanan a tué Goliath.
C'est un vrai casse-tête, à première vue.
Kuiperth en déduit que la prouesse d'un guerrier complètement obscur, Elchanan, a été attribuée plus tard au grand roi David pour forger son mythe. Ce qui, du coup, détruit l'authenticité de l'histoire originelle.
Et c'est là que la mécanique de la linguistique du Moyen-Orient offre des clés de lecture bien différentes.
Comment les philologues expliquent ça alors ?
Ils avancent 2 mécanismes possibles. Le premier, c'est l'utilisation des noms de trône. Dans les monarchies environnantes de l'époque, comme en Égypte par exemple, il était hyper courant qu'un roi possède un nom de naissance et qu'il adopte un nom de règne lors de son couronnement.
Un peu comme les papes, quoi.
Voilà. Il est donc tout à fait plausible qu'Elchanan était le nom de naissance et David le nom de trône adopté plus tard.
Ce qui fait que c'est la même personne.
Exactement. La seconde explication linguistique, qui est tout aussi solide d'ailleurs, concerne la nature même du nom Goliath. Les linguistes suggèrent que Goliath fonctionnait peut-être non pas comme un prénom individuel, mais comme un titre institutionnel.
Un titre, genre un grade militaire ?
Oui, un titre désignant un champion géant de l'armée philistine, de la même manière que Pharaon désignait le roi d'Égypte ou César l'empereur romain. Donc David aurait tué le Goliath de son époque et Elchanan, des années plus tard, aurait abattu un autre champion portant le même titre de Goliath.
En analysant tous ces exemples, on réalise à quel point la méthode de Kuiperth, ou de l'évangélisme de concession en général, ça ressemble quand même beaucoup à une capitulation intellectuelle.
C'est le mot.
Parce que faire de l'archéologie, décrypter l'araméen, analyser les structures de traités hittites ou égyptiens pour comprendre les coutumes immobilières de l'époque, c'est un labeur titanesque. L'approche de Kuiperth, elle, consiste essentiellement à buter sur le premier obstacle textuel, à déclarer que l'histoire est fausse et à se retrancher sur la morale de l'histoire. C'est une solution de facilité.
Si nous relions cela à une vision plus globale, le débat documenté par Vanhoe expose 2 paradigmes épistémologiques radicalement opposés.
C'est-à-dire ?
D'un côté, on a une approche qui part du principe que le texte possède une intégrité historique intrinsèque. Face à une dissonance, cette méthodologie exige une investigation scientifique, linguistique et archéologique beaucoup plus poussée. La difficulté apparente n'est pas une preuve de fausseté, mais une invitation à mieux comprendre le contexte de l'auteur ancien.
Et de l'autre côté ?
De l'autre côté, l'approche critique initiée par Von Rad et prolongée par des chercheurs comme Kuiperth considère le texte ancien principalement comme une construction rhétorique et spirituelle. Pour eux, la validation factuelle est secondaire, voire impossible. Chercher une harmonisation historique précise relèverait d'une mauvaise lecture de la nature même du texte.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? On a démarré avec la division des sources par Wellhausen, on a traversé l'idée de Von Rad selon laquelle un credo unifie un texte dépourvu d'histoire factuelle, et on vient d'explorer la riposte de Vanhoe démontrant que la foi ne peut naître que d'un événement réel. Pourquoi cette bataille méthodologique devrait-elle capter l'attention de quiconque, aujourd'hui, au-delà des cercles théologiques ?
Cela soulève une question importante et qui concerne directement notre propre consommation de l'information. Le défi mis en évidence par ces notes académiques dépasse largement le cadre biblique. C'est le défi de la vérité.
La vérité avec un grand V.
Oui. Peut-on extraire une philosophie valide, une vérité morale, une éthique fondatrice à partir d'une source dont les détails factuels se révéleraient faux ? Ou bien la puissance et la validité d'un message dépendent-elles intrinsèquement de la réalité glaciale et irréfutable des faits sur lesquels il prétend s'appuyer ?
C'est hyper actuel comme débat.
Totalement. Dans un monde saturé de narratifs, de révisions historiques et de constructions médiatiques, la frontière entre l'histoire et la Heilsgeschichte résonne avec une urgence particulièrement moderne.
Et ça nous ramène, d'une certaine façon, à mon analogie du journal intime familial trouvé dans le grenier. Ça pose une réflexion vraiment troublante à l'échelle de nos sociétés contemporaines.
Laquelle ?
Eh bien, si les mythes fondateurs, les récits d'émancipation ou les révolutions historiques qui structurent une civilisation moderne s'avéraient être factuellement inexactes, de pure construction kérigmatique pour le coup. Est-ce que les valeurs de justice, de droit et d'identité culturelle qui en ont émergé pourraient survivre par elles-mêmes ?
c'est la grande question de l'autonomie des valeurs.
Ou bien, est-ce que l'effondrement de l'histoire objective entraînerait de manière implacable la destruction de la Heilsgeschichte laïque de notre propre société ? Voilà une pensée vertigineuse à garder à l'esprit la prochaine fois que l'on lit les textes qui racontent nos origines.